You're with SBS Radio.
Eh bien, le plaisir de retrouver à nouveau Philippe Platel, qui est l'attaché culturel de l'ambassade de France en Australie. Bonjour à vous, à Philippe.
Bonjour, Jean-Noël.
Et on parle de l'Alliance française Classic Film Festival, qui est de retour en 2018 dans trois villes du pays, et on rend hommage à Jeanne Moreau.
C'est ça, c'est ça. Donc j'ai le plaisir pour la deuxième année d'assurer la direction artistique du Festival Classic. L'année dernière, on avait dédié le festival à Belmondo, qui était une autre grande figure. Cette année, évidemment, avec la disparition de Jeanne Moreau, c'était le bon moment pour lui dédier un classique. On pourra en dédier 2, 3, 4, vu l'étendue de sa carrière. C'est le premier, on verra. Déjà, il a fallu, et c'était très difficile, trouver 6 films parmi tous ceux dans lesquels elle a joué, ou réalisé d'ailleurs, pour tenir sur un week-end. Donc on sera en septembre à Sydney, puis en octobre à Melbourne, à Perth, puis en novembre à Melbourne.
Donc ce sont des films qui ont été tournés, d'après ce que je comprends, entre 1958 et 1991.
Oui, alors en fait, quand même une bonne partie des films, 5 des 6 films, sont concentrés sur les années 60 et même sur seulement 6 années, pour ne pas dire presque 4, puisqu'en fait, on commence avec L'ascenseur pour l'échafaud en 1957 et on va jusqu'au journal d'une femme de chambre en 1963. Et après, on fait un petit bond dans le temps pour aller voir une comédie en couleur un peu plus tard, La vieille qui marchait dans la mer, parce que ça nous paraissait intéressant aussi pour cette première ce premier hommage à Jeanne Moreau, de montrer aussi une facette de sa carrière et de son talent qui était la comédie. Mais une bonne partie du festival là se concentre sur vraiment les toutes premières années, les années 60, où son succès est devenu gigantesque et international.
Et donc, Philippe, vous disiez tout à l'heure qu'elle est décédée en 2017 à l'âge de 89 ans.
Oui.
Mais on va revenir sur son parcours. Elle a commencé avec le théâtre.
Oui. Alors, elle a commencé à 18 ans. Hein, elle était toute jeune. Elle était issue d'un père français et d'une mère anglaise, ce qui aussi explique ce qui a pu éventuellement faciliter sa carrière internationale, puisqu'elle a été totalement bilingue, français et anglais. Et elle a décidé de faire du théâtre contre la volonté de ses parents. Ce qui est intéressant aussi, elle le disait souvent dans ses interviews, c'est qu'elle a décidé de suivre son père en France, enfin de rester en France avec son père, tandis que par exemple sa sœur est partie avec sa mère en Angleterre. Et elle disait souvent, ma vie et ma carrière, même si elle n'aimait pas beaucoup parler de carrière, aurait sans doute été très différente si j'étais partie en Angleterre. Donc elle a commencé à 18 ans au théâtre. Très vite, toute jeune, hein, elle a rejoint la Comédie française en tant que pensionnaire de 1948 à 1951. Et ensuite, elle est partie dans la troupe de Jean Villard, au Théâtre National Populaire de Jean Villard. Elle se fait remarquer assez vite au théâtre par des réalisateurs. Et c'est donc en 1957 que Louis Malle lui propose un premier grand rôle pour L'ascenseur pour l'échafaud, qui était pour lui-même son premier grand film. Il venait d'un autre monde, des mondes sous-marins, puisqu'il avait passé, il venait de passer 3 ans avec le commandant Cousteau. C'est lui qui filmait l'émission du commandant Cousteau, et ça a été l'objet d'ailleurs du Monde du silence, qui lui a valu une palme d'or à Cannes d'ailleurs. Donc il arrive avec ce chef-d'œuvre, L'ascenseur pour l'échafaud, comme projet, et il propose tout de suite, avec l'aide des producteurs, le rôle titre à Jeanne Moreau. Et là, ça a été immédiatement un succès. Alors, c'était son compagnon de l'époque aussi, hein, Louis Malle.
Oui.
Ils ont tourné ensuite Les Amants, qui lui a été là aussi orienté vers un autre aspect de son image. Ça a fait scandale, puisque c'était les premières scènes dénudées qu'on voyait à cette époque-là au cinéma. Mais ça a fait d'elle une star. Ce démarrage a été immédiat. Ensuite est arrivé en 1960 Moderato Cantabile avec Peter Brook, qui lui a valu immédiatement le prix d'interprétation féminine à Cannes.
Ouais.
Et après, l'enchaînement des grands réalisateurs s'est poursuivi avec François Truffaut, avec Lozay, avec Buñuel, avec Godard, Orson Welles, Tony Richardson. Donc là, ça a été... Après, c'est une des personnes qui ont eu la plus forte popularité internationale. Orson Welles, qui était son ami, hein, disait d'elle que c'était même la plus grande actrice française, carrément.
Oui.
Et ensuite, voilà, donc c'est quelqu'un qui a fasciné le monde entier, qui n'a eu de cesse d'être interviewé par tout le monde, parfois même trop de monde peut-être, mais ça c'était aussi sans doute son côté bon petit soldat. C'est Jeanne Moreau, c'était vraiment, elle se voulait vraiment comme l'antithèse de la diva, et elle se définissait vraiment comme elle se définissait d'ailleurs comme une boîte vide, qui était à la disposition des réalisateurs pour réaliser leurs fantasmes, pour réaliser leurs films. Et elle se mettait totalement au service de son métier, des films, des réalisateurs, et par extension, des journalistes aussi qui voulaient l'interviewer. Donc ça a donné l'occasion de grandes interviews, mais aussi de choses un peu moins... Et ça, elle a beaucoup, beaucoup parlé du métier de d'actrice, mais aussi, elle fait partie des personnalités à qui on a adoré poser des questions très philosophiques sur la vie, la mort, l'amour, les hommes, en écho avec ses rôles d'ailleurs.
Et je crois qu'elle a eu pas mal de prix, notamment le César de la meilleure actrice.
Bah, elle a eu tous les prix possibles et inimaginables. Elle a eu des prix. Elle a eu le prix d'interprétation à Cannes, donc pour Moderato Cantabile. Elle a eu beaucoup plus tard le César de la meilleure actrice pour La vieille qui marchait dans la mer en 1992. C'est pour ça qu'on présente aussi le film.
Mm-hmm.
Et après des Césars d'honneur, César d'honneur en 95, en 2008, l'Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1998, pareil, Ours d'or d'honneur en 2000 à Berlin. Donc voilà, après, c'est tout le monde a reconnu ce parcours extraordinaire.
Il semble qu'elle n'a jamais pris sa retraite.
Non, c'est quelqu'un qui effectivement a toujours travaillé. Elle le disait beaucoup d'ailleurs, que sa vie c'était son travail. Elle a dédié beaucoup, elle a dédié tout à son travail, au réalisateur. Donc effectivement, elle a essayé aussi la réalisation dans les années 80, soit même 70, et puis 80-90. Ensuite, elle a chanté aussi. Hein. On connaît bien entendu la chanson de Julie Jim. Oui, c'est un parcours pluridisciplinaire, total et mondialement connu.
Et elle restera gravée dans la mémoire des gens pour son film, pour avoir joué dans Jules et Jim, vous croyez ?
Bah, Jules et Jim, c'est le film mythique, mais il y en a plein d'autres, et ceux qu'on présente dans le festival en font partie. Je pense que Eva est un film qui a vraiment beaucoup aussi contribué à son image de femme fatale. Le journal d'une femme de chambre de Buñuel, qu'on présente également. Tout ça, c'est dans des années très resserrées. Hein. Mm-hmm. Jules et Jim, Eva, 1961. Jules et Jim, 1962. Le journal d'une femme de chambre, 1963. Tout s'est enchaîné dans les années 60. C'est incroyable. Hein. Le procès d'Orson Welles en 1962, alors on ne le présente pas. La baie des anges avec Jacques Demy en 1963. Les années 60 ont été des années totalement frénétiques. Et donc Jules et Jim, oui, c'est un film mythique pour la chanson, pour le ménage à trois, comme diraient nos amis anglo-saxons. Le journal du femme de chambre, je pense, est aussi très mythique, avec la fameuse scène des bottines du vieux fétichiste de la maison de campagne.
Et donc, le festival sera programmé dans trois villes cette année-ci, à Sydney, à Perth et à Melbourne.
Oui.
Je vois qu'à Perth, ce sera au WA Maritime Museum.
Oui, exactement.
Et donc, tous les détails, Philippe, sur le site afclassicfilmfestival.org.
Oui, exactement. Et je voulais juste rajouter que c'est au-delà du fait qu'on rend un hommage parce qu'elle vient de nous quitter, c'est aussi une personnalité qui était déjà 40 ans avant, 50 ans avant, très en phase avec les mouvements forts actuels, MeToo, Time's Up, de défense des actrices dans le cinéma international. Elle a toujours dit qu'elle ne se voulait pas féministe, elle n'aimait pas ce terme, elle n'aimait pas être intégrée à un groupe, mais elle a fait énormément pour la reconnaissance des actrices et pour aussi l'identité de la femme au cinéma. Elle disait, en utilisant le titre du film de Jean Eustache, La maman et la putain, avant, donc non dit dans le texte, avant les grands rôles qu'elle a incarnés, une femme au cinéma, c'était soit une maman, soit une putain. Et elle a complètement chamboulé cette manière de voir la femme au cinéma. Elle a refusé beaucoup de rôles, elle a refusé tous les rôles où elle considérait que la femme n'était pas était fragile ou menacée ou dégradée. Parfois, elle a raté des grands rôles aussi. Elle a regretté certains refus. Notamment, son grand regret, ça a été de ne pas jouer dans Spartacus avec Kubrick. Ça, c'est sûr que Kubrick, ça, ça peut être un regret.
Et on imagine qu'elle parlait l'anglais couramment.
Oui, elle était totalement bilingue, puisque sa mère était anglaise. Ouais, ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça. Ça a aussi contribué à sa facilité, sa carrière internationale, au-delà de ses amitiés avec des réalisateurs internationaux comme Orson Welles.
Ouais. Philippe, toujours un plaisir de vous avoir sur les ondes de Radio SBS. Merci à vous et à la prochaine.
Merci Jean-Noël, à bientôt.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.